Bonjour, nouvelle édition de l'économie en question en compagnie de trois invités familiers de notre émission pour dresser un bilan économique et social de la France, celle que trouvera l'élu à la présidence de la République au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle. Chômage, les tout derniers chiffres de Pôle emploi pour le quinquennat de François Hollande sont parus mercredi. Croissance, et ces chiffres-là aussi ont été publiés, c'était vendredi, par l'INSEE, marché du travail, finances publiques, balance commerciale. Les principales réformes et leurs effets, politique énergétique par exemple, autant de thèmes à parcourir ou à isoler pour notre discussion. Car pendant la campagne, la France continue de tourner son état, donc ce que trouveront les élus à la présidentielle, le ou la. Et nous sommes en compagnie de Christian de Boissieu, professeur d'économie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Benjamin Coriat, professeur d'économie, Université de Paris 13, Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et puis nous réservons, comme chaque semaine, une courte séquence en fin d'émission, 3 minutes maximum, mais le temps pour chacun d'entre eux de nous dire quels chiffres ils ont choisi. Venez avec un chiffre, c'est le titre de cette petite chronique prise dans l'actualité nationale, internationale, qu'il signalerait pour son importance, pour son originalité, pour la rapporter éventuellement à d'autres chiffres comme ils voudront. C'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous. Pour cette discussion donc ouverte, j'ai bien précisé qu'on parlait d'un bilan, mais bien entendu, on parle aussi de ce qui est devant nous, mais quand même. Emploi et chômage, commençons par là, c'est quand même le point important, cela a été dit pendant ces 5 années. Un médiocre bilan, si l'on lit la presse, il est vrai que l'on retombe assez souvent sur ce chiffre-là. Pôle emploi, cependant, a publié mardi les derniers chiffres de chômage de la présidence Hollande. Pas de chance, ils ne sont pas très bons. La promesse sur laquelle François Hollande avait demandé à être jugé à la fin de son mandat, clairement, inverser la courbe du chômage, n'a pas été tenue. Juste une petite précision avant de vous entendre les uns et les autres. Il y a plusieurs manières de calculer les chiffres du chômage. Il faut toujours rappeler celle de Pôle emploi, donc dont nous parlons ce matin, qui recense les demandeurs d'emploi. 5 catégories, j'insiste sur la catégorie A, les chômeurs qui n'ont aucune activité. Ceux des catégories B et C auraient exercé une activité réduite. On ne compte pas ici dans notre calcul les suivants. Ceux aussi fournis par l'INSEE, donc Institut National de la Statistique et des Études Économiques, intéressants parce qu'ils s'alignent, eux, sur ceux du Bureau International du Travail. Ce sont donc les chiffres avec lesquels on compare la France à ses voisins ou à d'autres pays dans le monde. Et je précise que pour le BIT, donc pour l'INSEE, le chiffre du chômage n'a pas été inférieur à 7% depuis 1983. Les chiffres donc de Pôle emploi, oui, ils ne sont pas très bons, je le disais ce mois-ci. 5 ans après, je rappelle qu'en mai 2012, Pôle emploi recensait 2 922 600 chômeurs, très précisément de cette catégorie A, celle qui nous occupe. 5 ans après, toujours selon Pôle emploi, et nous sommes en mars 2017, 3 508 100 chômeurs. Voici pour ces chiffres, avec encore 2 informations, si vous le permettez, les uns et les autres. 1, le nombre de chômeurs a donc augmenté, plus de 26% si l'on reprend tous ces calculs. Et 2, il est en baisse, clairement, depuis un an. L'OFCE s'est livré aussi à ces calculs, c'est même son travail principal. Cher directeur principal Xavier Timbaud.
Cher Dominique, merci pour aussi ces explications très importante sur le chômage, qui est à la fois un chiffre extrêmement regardé, extrêmement commenté, qui du coup révèle aussi une importance très grande dans le débat, et qui effectivement est assez complexe.
Tout à fait.
Et puis vous avez rappelé ces différentes sources, et surtout la source au sens du BIT qui donne une information qui est plus solide. Alors je vais vous servir un peu d'eau tiède, vous avez fait référence à un bilan médiocre, je vais essayer de réchauffer un peu ce bilan
médiocre. J'ai précisé que c'est un terme qu'on retrouve un peu partout.
Oui, je sais qu'on le retrouve partout, mais je pense qu'effectivement il est un petit peu exagéré. Le bilan n'est pas bon, mais il n'est pas médiocre. Et il y a quand même un certain nombre d'éléments plutôt positifs. Alors, c'est quoi les éléments plutôt positifs? D'abord, il faut rappeler d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé. On a traversé après 2008, la crise de l'après-deuxième guerre mondiale des pays développés, qui a eu des conséquences phénoménales sur tout un tas de pays. Beaucoup de pays développés, en particulier les pays européens, sont encore dans les suites et les conséquences de cette crise. D'autant qu'en Europe, la crise des dettes souveraines, qui n'est pas, sans lien avec un certain nombre, peut-être qu'on en parlera, de défauts de conception, défauts de construction de la construction européenne. Mais donc la crise des dettes souveraines en Europe a remis une couche dans cette crise-là. Donc les pays européens sont dans cette situation-là. Et de ce point de vue-là, le bilan de la France, il n'est pas médiocre, il est moyen. Donc en gros, en Europe, on a des pays qui s'en sortent
moyen,
très très bien.
Moyen, ça veut dire qu'il est dans la moyenne des
il
pays
Il est dans
européens.
La moyenne, exactement. D'accord. Dans la moyenne. Il y a des pays qui s'en sortent très très bien, l'Allemagne par exemple, et des pays qui sont plongés dans une crise assez profonde, l'Espagne avec un taux de chômage qui reste très élevé, ou l'Italie, dont on parle assez peu, mais qui est dans une situation extrêmement préoccupante, encore plus préoccupante d'une certaine façon que l'Espagne, parce que même si c'est pas un problème aigu de marché du travail, mais il y a quand même un problème de marché du travail en Italie, puisque le chômage y est élevé, il est à plus de 12%, donc c'est quand même une sous-performance extraordinaire. Mais la situation économique de l'Italie est extrêmement préoccupante en termes de croissance, de compétitivité, d'investissement, avec de divergences géographiques au sein de l'Italie, qui est aussi une question très importante, sans parler de la question de la dette publique, qui est un problème.
Voilà. À quoi on vous répondra, sans doute, Benjamin Coria va le faire, que ça ne console pas de la situation française.
Alors, ça ne console pas de la situation française, un petit peu quand même, parce que cette crise a été aussi une espèce de crash test sur nos systèmes sociaux et sur la capacité d'absorption de nos systèmes sociaux. Et de ce point de vue-là, la France a une caractéristique, et donc c'est là que je vais faire un petit peu d'eau tiède, c'est que, ok, le chômage a augmenté. Par exemple, on a un niveau de chômage qui est plus élevé que celui de l'Allemagne, et tout le monde regarde ça avec beaucoup d'envie, en disant « Oh là là, les Allemands quand même, quelle performance extraordinaire !» Mais ce qu'on a réussi à préserver en France, par exemple, c'est à contenir l'augmentation du taux de pauvreté, ou l'augmentation des inégalités. Contenir, hein, je dis bien, on ne les a pas réduits, mais par rapport à l'Allemagne, par exemple, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a 10 ans, le taux de travailleurs pauvres était à peu près égal entre la France et l'Allemagne, et aujourd'hui, il a doublé en Allemagne. Il n'a pas augmenté, il a doublé.
Nous l'avons dit très récemment dans l'émission.
C'est quand même un point important. Alors, ça ne peut pas complètement nous racinérer sur la situation dans laquelle on est et nous conduire à nous en satisfaire. Mais il y a quand même cette dimension-là qui est extrêmement importante.
En clair, la protection sociale nous a quand même permis d'éviter le pire.
Oui.
Notre système fonctionne toujours. Benjamin Coria.
Non, le bémol sérieux même que j'apporterai à ce qu'a présenté Xavier, c'est si on fait. Il apparaît, je veux dire, ce bémol, si on fait apparaître des éléments plus qualitatifs de la politique qui a été menée. Parce que, bon, d'abord, c'est vrai que le taux de pauvreté n'a pas augmenté dans les mêmes proportions qu'en Allemagne, on peut s'en réjouir, mais il a quand même augmenté. Ensuite, et surtout, c'est ça qui me paraît très important, l'aspect le plus négatif, si on peut dire, de ce quinquennat, qui ne comporte pas que des aspects négatifs. Hein. En économie, pas beaucoup. Mais en matière sociétale, par exemple, le mariage pour tous, etc., c'est quand même un succès de ce quinquennat. Ce qui m'embête, c'est que sur un plan plus qualitatif, on a validé l'idée que la seule politique possible, ce que résume la notion de gauche de gouvernement, c'est des politiques de type néolibéral. Et ce qui est très embêtant, c'est que les systèmes sociaux ont éventuellement pas trop mal résisté, mais on a fait quand même la loi El Khomri, hein, c'est-à-dire que on a mis par terre des éléments essentiels du code du travail sans aucun bénéfice et qui vont peser lourd à l'avenir. Donc voilà un bémol qui me paraît quand même très sérieux.
Même si on a favorisé la négociation sociale, syndicale, entre partenaires sociaux.
Oui, mais en tout cas avec des résultats très 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 mitigés.
Pas comme acquis.
Ce qui va peser lourd, c'est la loi El Khomri pour la suite.
Christian Boissieu.
Moi, je dirais le bilan, il n'est pas bon du point de vue de l'emploi. Mais enfin, ce n'est pas le bilan de M. Hollande, c'est le bilan, j'allais dire, des 20 dernières années, si vous me permettez dire ça.
Oui, c'est vrai.
Nous arrivons aujourd'hui avec un taux de chômage qui n'arrive pas tellement à décoller en dessous de 10%. On est à 9,6, 9,7, ça dépend comment on calcule, si on tient compte des DOM ou pas des DOM, et il faut bien sûr tenir compte des départements d'outre-mer. Le taux de chômage des jeunes, dont on n'a pas parlé, 25%. Est encore à 24%, et il n'a pas baissé, très peu.
Il a baissé le taux de chômage des jeunes.
Ça reste quand même le problème central, alors je sais bien qu'il y a un débat sur le calcul du taux de chômage des jeunes. Bon,
juste un petit mot.
Non, mais attendez, moi je termine parce que sans ça, je veux dire, entre ceux qui font des tunnels et ceux qui ne me laissent pas parler, on ne va pas y arriver.
Christian Boissieu, un tunnel pour
vous. Donc le taux de chômage des jeunes est encore proche de 24%. Alors on peut toujours dire il y a l'Espagne qui est pire que nous, il y a l'Italie qui est pire que nous, il y a la Grèce, malheureusement pour elle, qui est pire que nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, et la dynamique, je la vois pas tellement. Je pense que la croissance reste insuffisante. On va peut-être y venir, mais il y a quand même un lien entre la croissance et l'emploi. Regarde les chiffres du premier trimestre, alors certes, il y a un décalage dans le temps, mais les chiffres du premier trimestre, la croissance en France est uniquement à 0,3. Si on multiplie par 4, ce qui ne sera pas nécessairement le cas, ça veut dire qu'on n'a pas retrouvé ce rythme de 1,5 en rythme annuel qui est nécessaire pour stabiliser le chômage et pas suffisant pour le faire réduire. Donc, et je termine en disant que... et là encore, moi je veux dire, c'est la France, c'est pas uniquement Monsieur Hollande, c'est l'ensemble du dispositif et des politiques qui sont inadaptées. C'est pour ça que quand Benjamin Coria disait, au fond, les politiques néolibérales, moi je trouve qu'on a validé aucune politique efficace jusqu'à présent.
J'ai pas dit que c'était efficace, non. J'ai dit qu'on a validé cette politique, là j'ai jamais dit qu'elle était efficace.
La loi El Khomri, je sais pas si elle va pas nous sauver, mais est-ce qu'on voit déjà les effets dans les chiffres? Alors, il faut mieux débattre peut-être des conséquences du pacte de responsabilité et du crédit impôt compétitivité emploi, qui me paraissent, sur lequel on a quand même peut-être 2 ans de recul aujourd'hui, même si c'est pas beaucoup. Donc, je termine en disant que, moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est quand on se compare aux autres, sur les 28 pays de l'Union européenne, il faut encore compter la Grande-Bretagne dedans, puisqu'elle n'est pas encore sortie, le chômage a baissé récemment dans 25, et nous, on n'arrive pas à baisser. Donc, je pense qu'il y a un problème général. En Europe, la croissance est insuffisante en Europe, mais je pense qu'il y a aussi un problème français. Voilà.
Bien particulier à la France. Vous vouliez dire, Xavier Thimbault ?
Non, plusieurs éléments, mais il y a un élément quand même, bon, qui dans ce bilan, encore une fois, et si à mon avis il n'est pas médiocre et loin d'être bon, il y a quand même quelques éléments un peu positifs. Alors, si on parle de la dynamique, il se trouve que depuis maintenant 5 trimestres, la France, l'économie française, crée des emplois. Et crée des emplois à un rythme important et élevé. Ça, c'est un élément...
Plus important que les destructions.
Parce que
c'est toujours le parallèle qu'il nous faut faire, bien entendu.
Il y a une création nette annuelle qui est supérieure à 150 000 emplois par an. Donc c'est un chiffre qui est assez important parce que ça veut dire que c'est supérieur au flux d'entrée sur le marché du travail aujourd'hui.
Avec une deuxième question, pardon, je vous interromps, de quelle nature d'emploi ?
Alors, la question de la nature de l'emploi est effectivement une question essentielle.
96% de CDD d'emplois précaires, on le sait.
Il y a beaucoup d'intérim, mais il y a beaucoup d'emplois précaires. Mais malgré tout, et on n'a pas encore vu de ce point de vue-là, ni les effets de la loi El Khomri, ni les effets de l'ubérisation ou de la transformation du marché du travail, l'emploi temporaire et le contrat à durée indéterminée reste encore une voie d'entrée dans le contrat à durée indéterminée. C'est un bilan qu'il faut aussi discuter dans le détail.
Benjamin Coria.
On reste avec
des taux d'emploi quand on regarde le stock de l'emploi.
Mais oui,
des
bien
taux
sûr.
D'emploi avec
mais
des contrats à durée indéterminée qui sont stables dans le temps. Donc ça, c'est quand même un point important.
Le point, il est connu, à savoir que si on raisonne en stock, effectivement, compte tenu de l'histoire de France, du fonctionnariat, du fordisme, etc., le stock est encore important. Il est autour de 80%, il baisse. Mais si on regarde en termes de flux, on n'est pas du tout là. Ouais. On est à plus de 90% des embauches qui sont faites en CDD, en intérim, etc. Quand on sait l'importance du vieillissement de la population française, des départs à la retraite, etc., s'il n'y a pas un coup d'arrêt à ça, même en stock, ça va rapidement changer. Donc je veux dire, il faut arrêter de se réjouir sur le fait que le passé, c'était des CDI. Il faut s'inquiéter sur le fait que le présent, c'est des CDD.
Je suis pas d'accord avec cette analyse-là. Le CDD et l'intérim restent des points d'entrée dans le CDI et il y a une transformation des CDD, l'intérim en CDI. Et on voit dans d'autres pays des baisses très nettes de la part des CDI. C'est vrai en Espagne, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai au Royaume-Uni. Et ce point de vue-là, il y a une nuance très importante à faire entre l'économie française et l'économie de ces autres pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soumis à la même pression et qu'il ne s'agit pas d'essayer d'anticiper ce qui peut se passer et d'y voir un certain nombre de menaces.
Mais si on
essaye de regarder quantitativement ce qui se passe,
il faut pas
y a
jouer
quand même
sur
une nuance, très importante.
Dire que c'est un point d'entrée vers les CDI, ça doit s'accompagner du taux de conversion de CDD en CDI. Il est aujourd'hui extrêmement faible. Donc il ne faut pas jouer sur les mots.
Je reviens sur les mesures principales économiques avant d'entendre l'arbitrage, peut-être, de Christian de Boissieu sur votre petit échange. Un rapport de France Stratégie, là je reviens sur le CICE, hein, vous venez d'y faire allusion, le crédit d'impôt compétitivité et emploi, et également le pacte de responsabilité, deux grandes mesures phares, on est d'accord, du quinquennat de François Hollande pour un montant de 40 milliards d'euros tout de même. Là encore, il y a des points de vue différents. L'OFCE, on vient d'entendre Xavier Tambo, n'a pas forcément la même analyse que France Stratégie, organisme de réflexion qui est rattaché à Matignon, je le rappelle, et qui estimait en 2016 que si l'impact avait été limité sur ces trois premières années, il est réel. Il aurait permis de sauvegarder ou de créer 80 000 emplois en 2013 et l'effet pourrait se révéler beaucoup plus important pour 2014. Apparemment, on n'a pas d'autres chiffres. Christian de Boissieu, juste à la lumière de ces constats.
Je pense que ça a un impact. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent ?
Parce que c'est ça la question. C'est le coût de l'emploi.
Attends, j'essaie de terminer ma phrase. Parce qu'en face. Effectivement, vous évoquiez les 40 milliards d'euros, etc. Il y a un impact positif, c'est-à-dire ça réduit le coût indirect du travail à travers l'allègement, le basculant d'une partie des charges sociales. Mais il y a aussi, pour certaines entreprises, peut-être un effet d'aubaine et que il y a les deux qui jouent. C'est plus intéressant aussi, je crois que France Stratégie l'avait fait il y a quelques temps, d'étudier les conséquences par taille d'entreprise. C'est pas inintéressant de voir que, certes, les grosses en profitent, mais PME, l'impact de tout ça sur le tissu des PME, dans un contexte qu'ils appellent la France, on sait quand même que beaucoup de créations d'emplois et d'activités sont indexées, dépendent de la situation des PME et de leur capacité à devenir des entreprises
intermédiaires. Et même des très petites entreprises.
Ça me paraît important. Voilà, donc, moi je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je reviens sur un point et je termine sur ce point. Je suis quand même étonné que, à travers Xavier, l'OFCE se satisfasse quand même de la situation française actuelle. Moi, je ne m'en satisfais pas.
Bien sûr.
Je ne m'en satisfais pas. Voilà. Et donc, quand on raisonne sur le delta, on peut toujours dire ça s'améliore. Je veux dire, moi, je suis comme tout prof d'université, je suis confronté. J'ai en face de moi des étudiants.
Observateur,
oui. Oui, je suis ravi d'avoir en face de moi des jeunes. Et ben, je peux vous dire, même avec un diplôme, on leur propose des stages qui débouchent souvent sur des CDD et pas toujours sur des emplois. Alors, ça s'améliore un peu, mais ça met beaucoup trop de temps à s'améliorer. Et il y a une fuite, il y a une fuite des jeunes vers des pays plus dynamiques.
Étude OFCE de 2016, donc Xavier Tambo, vous allez nous en parler sans doute, et ça vous permettra de répondre à Christian de Boissieu. Les efforts budgétaires, dites-vous, pour assainir les finances publiques au début du quinquennat ont freiné la croissance. C'était ça le problème que vous mettiez en avant, même si l'inflexion de la politique économique commence à porter ses fruits. Mais vous parlez de quoi ? Surtout de la pression fiscale qui a été imposée, et selon vous, davantage aux ménages qu'aux entreprises. Donc vous n'êtes pas si positif que ça, quand même.
Ah, je n'ai exprimé à aucun moment une quelconque satisfaction. Je pense juste que quand on parle d'une chose aussi importante que le bilan d'une économie, de la politique économique qu'il faut conduire, il est quand même extrêmement important de regarder la situation, de la comparer aux autres pays, oui, et d'éviter de tomber dans une espèce de pessimisme auto-entretenu et un peu mimétique qui nous conduit à la fin dire ah ben oui, mais alors là maintenant il faut faire table rase de tout ça, renverser la table parce que rien ne marche.
C'est pas ce que j'ai dit, Charles.
Mais c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est pour ça que j'accorde extrêmement d'importance à une analyse qui à la fin peut-être va vous paraître de l'eau tiède, mais qui n'exprime ni satisfaction,
et moi non plus,
ni désespérance, et qui dirait que derrière cette désespérance, il n'y a plus que le recours à des mesures extrêmes pour s'en sortir. Voilà. Mais j'ai pas dit que c'est ce que vous disiez.
Ah
mais
non,
c'est pour ça que
moi, sur la sous-estimation du choc fiscal, par exemple.
Sur l'analyse qu'on a faite de la politique économique, principalement menée par,
2016, hein, je le rappelle.
Par François Hollande. En fait, dans cette politique économique, il y a deux éléments principaux, et tout est une affaire de timing. Le premier, ça a été les mesures budgétaires, de consolidation budgétaire, en France, mais aussi en Europe, qui ont été faites à partir de 2010, à partir de 2011, au pire moment. Au pire moment, c'est-à-dire à un moment où la situation des banques, la situation des marchés financiers était encore extrêmement dégradée, où le chômage était extrêmement élevé, où la situation bilancielle des entreprises était aussi extrêmement dégradée, et où, en gros, l'analyse est de dire que le multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire l'impact d'une politique budgétaire restrictive, est maximal en termes de dommages économiques. Et à ce moment-là, on a un risque de politique récessive auto-entretenue, d'autant qu'elle est menée à l'échelle européenne. Mmh. Notre analyse était de dire que c'était le mauvais moment, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait accepter à ce moment-là d'avoir plus de déficit public pour les réduire plus tard, et au contraire, de s'attacher à réduire prioritairement le chômage. Or, ce qui a été fait en France
donc
et en Europe...
Donc on a perdu cette occasion de le faire.
Voilà. On a perdu une occasion on a prolongé la crise. Quand on regarde l'évolution comparée de la France, de l'Europe... des États-Unis et du Royaume-Uni, ça saute aux yeux. Il y a un moment, la sortie de la crise se faisait à la même vitesse pour les États-Unis et l'Europe jusqu'en 2011. Et à partir de 2012, il y a une divergence entre les États-Unis et l'Europe.
Et on n'a pas suivi.
Et cette divergence nous a coûté quelque chose comme 3 ou 4 points de chômage. Donc c'est quelque chose de considérable.
Dans un contexte, il faut rappeler, international, de baisse du prix du dollar, ce qu'on disait. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression de planète alignée.
La fameuse alignement des planètes, vous avez tout à fait raison.
Voilà.
Bien sûr.
Dont on aurait dû profiter. Oui. Alors, apparemment, on l'a laissé passer cette chance.
Oui, deux points.
Je vous résume.
Deux points. Ce que dit Xavier Timbaud, d'une certaine manière, et en d'autres termes, c'est on a été coincé par le pacte budgétaire de 2012, qui imposait de revenir dans des clous de 3% extrêmement rapidement, et on l'a fait à contre-temps. Bon, donc, je veux dire, c'est vrai que ce problème, il est extrêmement important, parce qu'on va le retrouver demain, d'une certaine manière. C'est vrai que tant qu'on n'a pas résolu cette hypothèque du verrou que met le traité budgétaire de 2012, on va avoir de sérieux problèmes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, puis j'en aurai fini, c'est qu'il y a deux mesures emblématiques quand même de ce quinquennat sur le plan économique. C'est le CICE et le pacte de stabilité. Et la loi El Khomri. Je suis parfaitement d'accord sur le fait que nous n'avons pas encore les effets de la loi El Khomri. On va attendre. Mais personnellement, je crains le pire. Vraiment, je crains le pire. C'est-à-dire que une situation dans laquelle, comme certains disent, on aura un code de la route par entreprise, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Quant au pacte de responsabilité, c'est vrai que il a amélioré les marges des entreprises. Ça, c'est incontestable. Beaucoup d'entre elles n'en avaient vraiment pas besoin. D'autres en avaient besoin. Et le coût par emploi, pour le moment, il est très élevé. Alors, si ça se poursuit, on verra. Mais pour le moment, il est très très élevé. Ça veut dire, en clair, qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire.
Et sur les finances publiques, Christian de Boissieu, pardon.
J'insiste sur un point par rapport au débat qui s'est amorcé. C'est que moi, je dis, je me satisfais pas de la situation actuelle du marché du travail, mais je vais pas pour autant me coucher. Ou sans ça, je change de métier. Je veux dire, quand on est économiste, il faut plutôt essayer de savoir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Bon, donc on est bien d'accord là-dessus.
Oui.
Sur le deuxième point, les politiques économiques monnaie, je pense sans doute que... Mais ça a été dit d'ailleurs, même par le FMI, alors... Si le FMI a reconnu ses erreurs, où va-t-on ?
Fonds monétaire international.
C'est vrai qu'on a sous-estimé l'impact des politiques budgétaires d'austérité, additionnées les unes aux autres. Olivier Blanchard, quand il était chef économiste du FMI, l'avait reconnu il y a 2-3 ans en disant « On a sous-estimé l'ampleur des multiplicateurs budgétaires négatifs sur l'emploi ». Donc, je pense qu'il faut repenser... la manière de coordonner nos politiques budgétaires et fiscales en Europe. Parce qu'on a un pacte de stabilité et de croissance qui a été fait il y a quelques années pour éviter les déviances ou les déviations des pays membres de la zone euro. En gros, ça n'a pas évité grand-chose, il faut dire les choses comme elles sont. Et en même temps, ça a trop pesé sur la politique économique qui a été menée. J'ajoute un point, c'est que moi, je fais partie des gens qui saluent la politique de la BCE. La politique de la Banque Centrale Européenne, heureusement qu'elle a été là, dans un contexte où nous avons été au bord de...
Tardive, moi j'ai souvent entendu ici.
Mais trop tardive, mais...
Je l'ai souvent entendu.
C'est à partir de juin 2014 qu'il y a eu ce virage. Mais ce virage de juin 2014, par rapport au problème que vous évoquiez sur le taux de change, il a quand même eu pour effet de faire baisser le taux de change de l'euro par rapport au dollar. Je vous rappelle que au printemps 2014, l'euro valait 1,30 ou 1,35 dollars. Aujourd'hui, il vaut 1,06, 1,07. C'est toujours bon à prendre pour notre compétitivité dans un contexte où le problème central, ce n'est pas l'inflation, c'est le chômage. Il ne faut pas se tromper d'ennemi.
Benjamin Coriat, t'es d'accord, ça tombe bien, on est en fin d'émission, on n'aurait pas eu le temps de vous contredire.
Oui, non, je suis d'accord. Heureusement qu'on a eu la politique de la BCE. Le seul problème, c'est cette immense masse de crédits qui se baladent et qui peuvent se traduire aussi par des problèmes extrêmement sérieux. Mais, je veux dire, en l'absence totale de politique budgétaire, heureusement qu'on a eu un peu de politique monétaire, bien sûr.
Et puis un mot, c'est moi qui vais le faire, de la transition énergétique, c'était encore une des grandes mesures du quinquennat de François Hollande, des objectifs assez ambitieux pour la croissance verte, on les a vus à l'été 2015. Et là, les énergies renouvelables qui représentaient en 2015, à ce moment-là, à peine 17% de la production électrique française contre encore 80% du nucléaire, des progrès restent à faire.
Mais la COP21 a été sur le plan diplomatique une réussite, ça il faut quand même le reconnaître.
On est bien d'accord, vos chiffres à présent. Et on commence avec Xavier Timbaud.
Mon chiffre, c'est 100. 100 comme 100 jours. C'est les 100 jours, les 100 premiers jours de Donald Trump. Une période qui est toujours examinée avec beaucoup d'attention aux États-Unis. Alors, et d'ailleurs, c'est l'occasion de faire un bilan. Le bilan n'est pas que Donald Trump n'a rien fait. Il a fait même beaucoup de choses, dont certaines extrêmement critiquables. Mais l'avis des spécialistes et des historiens est quand même que cette présidence, de ce point de vue-là, reste une des quand même des plus lentes dans la mise en œuvre du gouvernement, dans la mise en œuvre de lois, et que cela jette beaucoup d'inquiétudes sur la présidence de Donald Trump. Ça doit aussi nous donner une petite indication sur qu'est-ce qui se passe quand des populistes sont au pouvoir et l'écart énorme qui se crée entre leurs propositions et ce qu'ils mettent en œuvre.
Merci Xavier Timbaud. J'ai lu que c'était Franklin Roosevelt qui avait établi cette petite règle.
Oui, des 100 jours.
Voilà, des 100 jours, qui n'est pas écrite dans la Constitution, mais en principe très efficace. Benjamin Coriat.
Alors moi, mon chiffre, c'est 500, comme 500%. Et c'est le multiplicateur qu'il faut utiliser en ce qui concerne la réalité des échappements de diesel, de gaz toxique, par rapport aux tests. Toute une série de choses sont en train de se faire aujourd'hui qui montrent que, en situation réelle, on dépasse de 500% les normes E6 autorisées par l'Union européenne. Voilà, c'est très embêtant. Alors, je veux quand même donner un terme positif, c'est que les ventes de diesel sont en baisse et en baisse rapide. Bon, voilà.
Merci Benjamin Coriat. Enfin, Christian de Boissieu.
Mon chiffre, c'est 1330 dollars le cours du Bitcoin, jeudi, il y a deux jours. Cette monnaie virtuelle
qui nous fait encore sourire, vous voyez, on a tort.
Ben oui, mais moi ça me fait pas toujours sourire parce que c'est quand même le support de la spéculation. Les Chinois sont à fond dessus, ils représentent 60% du marché, les Américains, j'allais dire seulement 18%, et je ne crois pas, c'est très tentant ces monnaies virtuelles, mais je me méfie beaucoup de ces monnaies virtuelles parce que je ne crois pas aux monnaies qui ne peuvent pas s'adosser à une banque centrale. Sous cet angle-là, je n'ai pas d'accord avec Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, qui était le défenseur des monnaies privées. Je ne crois pas aux monnaies privées.
On y reviendra, tenez pas. Moi plus non. Tard que la semaine prochaine, France Culture, avec l'émission sur le monde en fin de matinée, parlera des monnaies, donc je vous y renvoie. Merci à tous les trois, Christian Boissieu, qu'on vient d'entendre, Xavier Timbaud, Benjamin Coriat et notre partenaire Les Échos cette semaine. Et Marie Bellan qui n'a pas pu nous rejoindre, mais je vous renvoie à ses articles et à ceux d'autres d'ailleurs dans Les Échos du week-end qui bien entendu vont parler très largement des programmes des deux candidats pour la prochaine élection. Merci aussi à Laetitia Coya et Tristan Gratalon, nos partenaires de l'autre côté de la vitre aujourd'hui pour la réalisation, et bien sûr à Laurence Genepin pour la préparation et la documentation. Venez donc nous retrouver sur Twitter ou sur notre site L'économie en question, et on vous prépare un sujet sur la Chine la semaine prochaine.